Avoir raison avec Toni Morrison. Deuxième épisode, le langage, cet acte doté de conséquences.
She's worried about how the language she dreams in given to her at birth.
Elle s'inquiète de la façon dont le langage de ses rêves, celui qu'elle a reçu à sa naissance, est manié et mis en service, voire parfois refusé dans un but scélérat.
Being a writer, she thinks of language partly as a system.
Étant un écrivain, elle voit le langage en partie comme un système, en partie comme une chose vivante sur laquelle on exerce un certain contrôle, mais surtout comme une opération, un acte ayant ses conséquences. Ainsi donc, la question posée par les enfants, est-il mort ou vivant, n'est pas irréelle, car le langage, pour elle, est sujet à la mort, à l'effacement, ne peut être mis en danger ou sauvé que par un effort de volonté. Un langage oppressif fait plus que représenter la violence. Il est la violence. Fait plus que représenter les limites du savoir. Il limite le savoir.
Ce chi dont parle Toni Morrison dans le discours qu'elle a prononcé devant l'Académie suédoise qui venait de lui décerner le prix Nobel de littérature en 1993, c'est cette vieille femme aveugle mais sage, fille d'esclave, noire, américaine, qui vit seule dans une petite maison à l'écart de la ville, à qui un jour des jeunes gens apportent un oiseau et lui demandent s'il est vivant ou mort. L'oiseau est la métaphore du langage et la femme un écrivain expérimenté. Ce discours de Stockholm, puissant discours, complexe, profond, publié en français par les éditions Christian Bourgois, met en avant le pouvoir de la langue, cette langue si importante pour la romancière qui disait souvent « On me demande d'être la conscience morale de l'Amérique parce qu'il y a le prix Nobel, mais la conscience morale vous dit une chose, lisez !» Parce que pour elle, c'est le langage qui est politique. Alors en quoi et comment par sa langue est-elle parvenue à son but, à savoir se défaire du regard blanc et de ce qu'elle appelait le langage du maître? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en compagnie de deux de ses traducteurs, Jean Guilloineau. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez traduit les premiers romans, L'œil le plus bleu, Paradis, Tar Baby, Le chant de Salomon, très grandes œuvres de Toni Morrison. Et à côté de moi se situe en studio Christine Laferrière. Bonjour.
Bonjour et merci à Jean Guilloineau pour les heures de bonheur que je lui dois durant mon adolescence. Voilà.
Et moi alors, les heures de bonheur d'avoir traduit Toni Morrison.
Voilà qui est dit. Christine Laferrière, on passe des premiers romans au dernier texte de Toni Morrison que vous avez traduit, Home, Délivrance, et puis les deux recueils d'essais, L'origine des autres d'abord, et puis La source de l'amour propre qui est un recueil d'essais au sens anglo-saxon du terme, des textes critiques, des textes de non-fiction, qui contient d'ailleurs la source de l'amour propre, le discours de Stockholm que vous avez traduit. Ce discours, diriez-vous que c'est l'essence de son œuvre, qu'il faut pour Toni Morrison prendre au sérieux le langage, Christine Laferrière?
Je pense que s'il y a une seule chose à prendre au sérieux chez Toni Morrison, c'est le langage. Le langage et la langue. Alors, on peut déjà noter en tant que traducteur, mon confrère ne me contredira pas que le problème pour nous, c'est aussi de voir comment rendre en language, puisque l'anglais n'a qu'un seul mot quand nous en avons deux. Et j'aimerais particulièrement citer, à mon sens, qui est la substantifique moelle de ce discours de Stockholm, qui nous donne « Nous mourons, ce peut être le sens de la vie, mais nous faisons la langue, avec toute la richesse de l'anglais qui implique aussi que nous nous occupons de langue, ce peut être la mesure de notre vie. »
Jean Guilloineau.
Oui, c'est... Il y a deux choses. Hein. Il y a tout d'abord un écrivain d'une dimension exceptionnelle. Moi, le mot... L'adjectif qui me vient directement quand je pense à elle, aussi bien d'ailleurs à elle physiquement que dans ses livres, c'est la puissance. Et il y a une puissance dans son écriture et dans les personnages qu'elle développe et les conflits, etc., qui est tout à fait exceptionnelle. Mais en même temps, elle est noire aux États-Unis. Et elle dit, par exemple, dans une interview, elle dit « Serais-je autorisée enfin à écrire sur les Noirs sans avoir à dire qu'ils sont Noirs, comme les Blancs écrivent sur les Blancs ?» Voilà. Il y a cette, j'ai envie de dire, ce ghetto qui est dans l'esprit des autres et qui fait que on la considère comme un écrivain noir, alors que c'est d'abord un écrivain ou une écrivaine, je dirais aujourd'hui. Et il y a, dans, en particulier dans certains textes, dans L'œil le plus bleu, qui est le premier de ses romans, qui a quelque chose d'intime, de familial, et dans Le chant de Salomon, qui est pour moi son plus grand livre, il y a une dimension à la fois mythique. Par exemple, dans Le chant de Salomon, le fait que il y a un mythe dans la collectivité noire qui est que Salomon, c'est un noir venu d'Afrique et qui est retourné en Afrique en volant, ce qui est une sorte d'allégorie de la puissance et de la volonté pour sortir du ghetto. Et tout tourne autour, même si le début du roman est assez humoristique, d'un homme qui va se jeter du haut d'un immeuble pour voler, et qui ne volera pas, bien sûr. Voilà, c'est ce mot de puissance, pour moi, qui puissant dans le langage, et puissant dans la façon de traiter les sujets comme des mythes, et le refus, mais c'est les autres qui la regardent comme ça, elle voudrait pouvoir écrire, d'abord comme un écrivain, et non pas comme un écrivain noir. Voilà.
Christine Laferrière.
Oui, que dire de mieux et de plus? Effectivement, tout vient d'être dit et bien dit. Son moyen de défense essentiel, sachant que de toute façon elle serait jugée d'après sa couleur de peau, ça a été justement dans ses derniers romans, de s'arranger pour que le lecteur puisse deviner la couleur des personnages, qui était un facteur historique naturellement majeur, sans jamais la préciser. Alors
c'est vrai dans Paradis, c'est vrai, oui, dans Adon, c'est vrai dans, oui, Home, elle, oui, ne donne pas la,
elle,
couleur,
ne donne pas
de
la
peau,
couleur,
des personnages.
Et si vous voulez, effectivement, ça crée une tension, et puis ça crée aussi, je veux dire, ça vous met un petit peu dans la peau du personnage, à qui on ne dit jamais toute la journée, tu es noir, mais on lui fait tellement mieux sentir. Si vous voulez, c'est un petit peu comme ces invités avec lesquels vous avez tellement d'écart qu'ils ne se sentent plus chez eux, si vous voyez.
J'espère que ce n'est pas votre cas.
Je sais que je viens régulièrement. Mais il y a cela, et on pourrait ajouter aussi dans Love, par exemple, comme elle le fait remarquer dans un de ses essais, qu'il y a une phrase formidable où on se pourrait se demander, face à laquelle on se demanderait qui la prononce. Et les jambes des femmes sont ouvertes, et moi je fredonne. Qui dit ça? Est-ce la femme? Est-ce l'homme? C'est magnifique. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question à l'endroit où la phrase apparaît, selon son contexte. Et elle le fait donc autant avec le genre qu'elle le fait avec la couleur.
Et de toute façon, c'était, Jean-Guy Loiseau, le défi qu'elle s'était donné, hein, c'était d'écrire assez bien, et là je la cite, pour que la question raciale soit importante, tout en ne l'étant pas. Alors c'est intéressant d'essayer de comprendre comment elle est parvenue à cela, c'est-à-dire à réussir à atteindre l'universel tout en pratiquant une écriture qu'elle voulait irrévocablement noire, Jean-Guy Loiseau.
Oui, mais de la même façon, elle le dit d'ailleurs, le petit morceau d'interview que je citais tout à l'heure, elle dit ça, elle dit les Blancs, ils écrivent sur les Blancs, ils n'ont pas besoin de se justifier. C'est les autres qui... Et par exemple, dans ce roman qui est Tar Baby, quel titre, hein, les bébés goudrons, c'est des enfants blancs élevés par les nourrices noires qui sont goudronnés, si j'ose dire. Et là, c'est l'histoire de milliardaires américains blancs qui vivent dans une île des Caraïbes et qui ont un couple de domestiques noirs. Et ce couple de domestiques a une fille ou une nièce qui est noire, qui a fait de très brillantes études grâce à ces milliardaires, mais qui reste enfermée dans sa couleur noire, en particulier parce que l'autre versant de la société, on est chez les milliardaires blancs, et un noir perdu va arriver dans l'île, il est poursuivi par la police, etc. Et il va y avoir une histoire d'amour entre cette fille qui est l'égale des blancs, avec ce noir qui est noir comme elle. et elle est rattrapée par sa couleur, et c'est presque une allégorie du regard que le lecteur américain, les critiques américains trop souvent jetaient sur son œuvre, c'est-à-dire qu'il ne lisait pas son œuvre, il lisait l'œuvre d'une noire. Et ça a été son combat très profond, c'est le sens hein, du roman, enfin c'est comme ça que je le comprends, par Baby, qui est un livre très étonnant, un peu différent des autres, parce que justement il y a cette confrontation, cette jeune fille, Jadine, qui est au milieu, qui a été élevée comme une blanche, et qui est rattrapée par sa couleur, si j'ose dire. Et c'est toute l'ambiguïté de la création de Toni Morrison, d'être continuellement rattrapée par sa couleur. Alors qu'elle écrit, comme elle le dit, les blancs, ils écrivent sur les blancs sans avoir à se justifier d'écrire sur des blancs. Et on leur pose, que ce soit Faulkner, que ce soit Hemingway, on leur pose pas la question. Alors qu'elle, on lui pose la question.
Christine Laferrière, elle considérait que le langage est porté par le racisme et que le racisme est porté par le langage. Est-ce que de ce point de vue-là, vous diriez qu'elle a entrepris de déconstruire le langage ?
Je pense qu'elle a su user du pouvoir du langage, de même qu'elle a su user de sa puissance d'écrivain. Et je ne sais pas si elle a déconstruit, vous me prenez un petit peu au dépourvu, mais pour moi, déconstruire, si vous voulez, ça peut être aussi une destruction. Et il n'y en a pas eu chez Toni Morrison, elle était beaucoup trop guerrière. Pour cela, elle résistait beaucoup. Moi, je pense qu'elle a joué inversé les codes. Elle a su jouer avec le lecteur dans le sens où elle rendait quand même un grand hommage à son intelligence, puisqu'elle réussissait à faire en sorte qu'il participe dès le début, pendant et après. Mais je pense que le fait qu'elle écrive de façon tout sauf linéaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on reconstitue, hein, il faut suivre tout de même. Ce ne sont pas forcément des lectures très faciles, mais ce sont des lectures par lesquelles on se laisse naturellement prendre très facilement. Et le fait aussi qu'elle ait quelque part touché au fond de l'exerverse qui était le racisme des Noirs entre eux, parce que pour compléter ce que vient de dire Jean Guilloineau, dans le dernier roman en date, Délivrance, on a quand même une femme noire qui est métisse, et tellement métisse qu'elle passerait presque pour une blanche, littéralement écœurée de voir qu'elle est rattrapée par sa génétique et qu'elle donne naissance à une petite fille qu'elle qualifie de noire comme le Soudan et qui la répugne au point qu'elle ne peut même pas la toucher. Donc il faut voir à quel point finalement le racisme et la langue sont entremêlés. Oui, bien sûr. Quand Paradis a été censuré en 1995, parce que ce roman était considéré comme une incitation à l'émeute et qu'en plus l'auteur a été blâmé copieusement pour avoir fait parler les Noirs dans ce roman comme il parlait réellement, c'est-à-dire de façon tout sauf châtiée, et pour cause, il n'était pas instruit. Elle n'en revenait pas, il faut voir les entretiens qu'elle accordait, c'était, à l'époque c'était la sidération totale, c'est-à-dire qu'on considérait à ce point que le livre était dangereux, qu'il était susceptible de provoquer des troubles à l'ordre public, alors qu'elle n'avait fait que dire la vérité. Donc il y avait à la fois le fond et puis il y avait la forme. C'est quand même important, elle ne s'attendait pas à ce qu'un roman en 1995 en Amérique soit censuré comme ça pour des raisons raciales.
Vous disiez à l'instant qu'elle faisait participer oui. son lecteur avant, pendant, après. La lecture n'est pas toujours aisée de ce point de vue-là, puisque le lecteur n'est pas censé être juste le réceptacle de l'histoire, mais il est partie prenante de la lecture. C'est peut-être là aussi le rôle politique pour elle du langage, puisqu'elle considérait même que lire était un acte politique. Elle racontait qu'elle avait commencé à lire quand elle avait 3 ans. Mais tiens, on va l'écouter parlant de ça, de la lecture comme acte politique, puisque à l'époque, en tous les cas, elle parlait de ses grands-parents, les blancs interdisaient aux noirs d'aller à l'école. Écoutons-la. C'était sur France Inter en 2016.
I read always when I was three.
J'ai toujours lu.
That's all we did.
Dès l'âge de 3 ans, on ne faisait que ça.
Interested in my reading, their
toute la famille s'intéressait à nos lectures. Ma mère était membre de plusieurs clubs du livre. Mais il faut bien comprendre quelle en était la raison. Ce n'était pas seulement le plaisir de la lecture. Mon grand-père, vous savez, se vantait d'avoir lu la Bible 5 fois intégralement. Et tout le monde disait, oh, c'est formidable. Et moi, je me demandais, mais et alors ? Et puis j'ai réfléchi. Il n'avait aucun livre dans la maison, sans doute que la Bible. C'était la seule lecture qui lui était accessible. Et on l'empêchait d'aller à l'école. On l'empêchait de s'instruire. à l'époque en Alabama, la ségrégation. Donc la lecture, eh bien, c'était un acte politique dans ma famille. Ce n'était pas juste pour passer le temps. C'était un acte agressif, anti-blanc, parce que les Blancs nous interdisaient d'aller à l'école.
Christina Ferrière.
Oui, je pense qu'on peut aussi rajouter que tout Blanc surpris à tenter d'alphabétiser un Noir était lourdement puni en fonction du code pénal, quelle que soit sa version, dans les États du Sud. Donc non seulement il était interdit d'apprendre, mais il était interdit d'enseigner. Je veux dire, la meilleure preuve du danger de quelque chose, c'est son interdiction. Ça montre à quel point le verbe portait loin et à quel point on craignait une menace à risquer de laisser accéder les Noirs à la culture.
Jean-Guy Loiseau, est-ce que ça veut dire que comme le lecteur est actif et presque co-participant de la création de l'œuvre pour l'amener à déconstruire lui-même en fait les assignations raciales, le traducteur que vous avez été de Toni Morrison était aussi dans cette démarche-là?
Alors écoutez, j'ai deux anecdotes. La première, c'est quand elle était à Paris, qu'elle a donné un cours, je crois, au Collège de France, et il y avait une réunion à Normale Sup d'Ulm, et il y avait deux choses là. La première chose, j'avais été frappé par le fait que son roman s'appelait « L'œil le plus bleu »,« L'œil au singulier », alors que la petite fille souhaite d'avoir des yeux bleus, et je lui ai demandé pourquoi c'était au singulier. Et je me souviens, elle était un personnage impressionnant, hein, physiquement. Et alors, elle a ouvert très grand les yeux et elle m'a dit « the stare », c'est-à-dire le regard. Et c'était la première chose qui m'a frappé, c'est qu'elle a dit « l'œil ». L'œil ne voulant pas dire le globe oculaire, mais voulant dire le regard. La deuxième chose que je vais dire, c'est en traduisant « Paradis », qui est un livre absolument extraordinaire, il y a, dans Paradis, il y a deux lieux. Il y a un couvent, un ancien couvent, dans lequel se réfugient des femmes en rupture, malheureuses, des blanches. Et juste à côté, il y a un village entièrement de noirs. Et ce sont des descendants d'esclaves qui ont fui les États esclavagistes au moment de l'abolition. Et ils ont fait là une petite communauté qui est un petit village. Et j'avais énormément de mal à m'y retrouver dans tous ces personnages du village. Et un jour, j'ai pris le livre, j'ai arrêté de traduire, et j'ai fait l'arbre généalogique du village. Et j'ai découvert qu'il y avait 7 familles, et que ces familles étaient toutes reliées entre elles. En fait, c'était qu'une seule famille. Et j'étais très fier de mon petit travail. Je l'ai fait voir à Toni Morrison, qui m'a dit « Oh, cachez ça ! Non, non, il faut pas !» Et j'ai compris qu'un des éléments de sa création, c'était d'écrire, par exemple, là, un village, avec une difficulté pour le lecteur de pénétrer cette réalité. Et qu'il fallait surtout pas, mais je n'avais pas l'intention de le publier, bien sûr, ni Christian Bourgois, mais c'était un travail qui m'a aidé à me sentir plus à l'aise dans la traduction de tout ce qui concernait ce village. Mais j'ai découvert tout d'un coup que, comme parfois, si j'ose dire, je ne suis pas spécialiste de Faulkner, mais il y a parfois des passages très, très impénétrables, c'était dans l'écriture de Toni Morrison une volonté de mettre le lecteur devant une réalité qu'il devait forcer pour comprendre.
Faulkner, à qui elle avait consacré sa thèse comme Virginia Woolf. Christine Laferrière, vous aviez ce type d'échange avec Toni Morrison pour la traduction?
J'ai eu très très peu d'échanges avec elle, mais tout à fait virtuel, hein, concernant la traduction. Il y a peu de choses que j'ai eu l'occasion de lui demander, parce que je n'ai pas traduit des ouvrages aussi volumineux que Jean-Guy Loiseau. J'admire la démarche, que je crois que j'aurais entreprise très très vite, connaissant ma paresse, j'aurais tout de suite dressé un projet analogique. Mais il est vrai que je n'ai pas été confrontée à cette difficulté, parce que j'avais beaucoup moins de personnages en ce moment. Cela dit, moi, quand j'ai lu les romans donc beaucoup plus volumineux de Toni Morrison, ce que je me disais, c'est quand même qu'un livre, c'est un monde. Et forcer le lecteur à pénétrer dans ce monde s'il le trouve difficile, ça veut dire le mettre face à la responsabilité de sa liberté. Voilà, c'est-à-dire qu'il va falloir, s'il veut continuer à être libre de lire, il faut qu'il soit en bonne intelligence avec le monde du livre. Et Toni Morrison prend toujours soin de guider très discrètement le plus discrètement possible, mais à force de touches très très bien placées, le lecteur a certains endroits seulement pour l'aider en quelque sorte à progresser, mais en fait le lecteur trouve sa place dans le livre et dans le monde du livre, et vous savez, c'est un petit peu la revendication de la liberté du citoyen athénien, si vous laissez de prendre part à la vie publique, et c'est ça la démocratie.
Beloved, 60 million and more. I will call them my people, which were not my people, and her beloved, which was not beloved. Romans chapter 9, verse 25. 1. 124 was spiteful, full of a baby's venom. The women in the house knew it, and so did the children. For years, each put up with the spite in his own way. But by 1873, Setha and her daughter, Denver, were its only victims. The grandmother, Baby Suggs.
Un extrait lu par l'auteur elle-même de son œuvre Beloved par Toni Morrison. C'était le tout début de cet ouvrage. Christine Laferrière, vous n'avez pas traduit Beloved, mais je rappelle que vous avez traduit notamment Home, Délivrance, et puis des recueils d'essais au sens encore une fois anglo-saxon du terme. Sur les romans, à quelles difficultés vous êtes-vous collecté, si je puis m'exprimer ainsi? Est-ce qu'il y avait des caractéristiques de son écriture en anglais et de la difficulté de traduire le français? Vous avez des souvenirs, par exemple, de certains passages plus durs que d'autres?
Écoutez, tout est difficile, et la concentration et la difficulté venaient aussi du fait qu'elle avait peut-être encore poli davantage de passages, du fait que ses romans étaient courts, je ne sais pas. En tout cas, moi je sais que je me suis heurtée à la difficulté tout simplement du génie de l'anglais américain, et ça, bah, écoutez, c'est un fait qui concerne beaucoup d'auteurs. Mais en préparant mon passage ici, je me suis amusée à retrouver des phrases qui m'avaient donné beaucoup de mal, alors qu'elles sont composées de mots extrêmement simples, quoique. Et Toni Morrison était très sensible à la qualité du rythme de ses phrases, des sonorités de ses phrases. Et l'anglais compose énormément, c'est-à-dire qu'il est facile pour l'anglais de créer des mots qui ne sont pas spécialement choquants, qui ne vont pas heurter, puisque voilà, vous assemblez en quelque sorte différentes parties. Alors qu'en français, évidemment, ça pose problème, c'est beaucoup plus rigide. Alors, j'aimerais, si je peux, citer un exemple de traduction qui va faire comprendre aux étudiants, par exemple, qui aspiraient à faire de la traduction, qu'elles peuvent être leur nuit blanche. Oui, oui. Alors, mais c'est voluptueux. Alors, le contexte est le suivant. Dans Home, nous avons une jeune fille qui, comme d'autres jeunes filles noires, s'est retrouvée piégée par un médecin blanc eugéniste et qui va donc faire d'elle, en quelque sorte, le cobaye d'expériences qui vont la meurtrir à vie. Et il se trouve qu'au terme de l'expérience, la jeune fille en question est prise en charge par une femme beaucoup plus âgée qui est chargée de la remettre d'aplomb. Je ne dis pas remettre d'aplomb au hasard. Voilà, il va falloir la remettre droite, en quelque sorte. Et donc, la cure, la seule cure possible proposée par cette vieille femme, consiste à exposer cette jeune fille aux rayons du soleil, tout simplement pour qu'elle cicatrise et pour qu'elle guérisse. Alors, ça implique de mettre de côté, naturellement, une forme de pudeur de la part de l'adolescente, qui va néanmoins suivre les consignes, tant bien que mal, et finir par s'adapter. Et donc, au terme de ces séances qu'elle passe en plein midi, jambes écartées, à recevoir en quelque sorte les rayons du soleil, on vous dit ceci. Alors, en anglais, c'est très simple. C'est « What followed the last sun-smacking hour ?» Donc, j'articule exprès. Voilà, on nous parle d'une cure qui s'appelait, en fait, en quelque sorte, les coups du soleil. Alors là, ça devient intéressant, parce que tout smack, c'est donner une bonne gifle bien sonore, donc ça fait mal, donc c'est violent. Et on vous apprenait donc que la cure s'appelait le fait d'être frappé par le soleil. Comment vous allez rendre ça? Alors, en résumé, vous vous dites que vous n'allez sûrement pas parler de gifle ni de coups, encore moins de coups de soleil en français. Et que vous allez très très vite éliminer un souvenir de jeune bachelière baudelairienne ou pseudo, donc qui vous rappelle qu'il y a un poème, on vous parle du soleil qui frappe à traits redoublés, etc., etc. Donc, pas de gifle, pas de coups, on ne frappe pas, que faire? Que faire pour décrire l'opération? lui donner un nom. Alors finalement, je me suis dit qu'on ne pouvait pas soumettre une jeune fille dans un livre de Toni Morrison sur le point de la guérison, parce que soumettre, c'est un verbe extrêmement déplaisant, il faut y aller avec modération. J'ai fini par subir, j'ai inversé le point de vue. Donc, le coup est transformé dans son point de vue en ceci qu'on va se concentrer sur la personne qui va le subir, et puis subir, c'est aussi le verbe qu'on prend pour les traitements. Alors déjà, tout va
et donc
mieux.
La phrase donne quoi au final?
Alors attendez, parce que là j'en suis...
Ah ben bah oui, mais le problème, Christina Ferrière, c'est que nous n'avons pas le temps d'un cours pour les
alors,
étudiants aspirants
c'est
à
dommage,
traduire.
Parce que la phrase donne ce qui suivit la dernière heure, passer à subir les rayons, et je vous épargnerai donc la magie de la chose qui fait deux octosyllabes.
Vous avez à peu près la même expérience, peut-être en moins long, en tout cas, Jean Guilloineau, avec la première phrase de Paradis. They kill the white girl first.
They shoot the white girl first. Mot à mot, il tue... Alors, j'ai traduit ça comme un poème en utilisant des pieds. Il tue. Alors, shoot en anglais, ça veut dire tuer d'une arme à feu. Donc, si on dit tue, on ne sait pas si c'est d'un coup de poing, d'un coup de couteau ou d'un coup de revolver. Il faudrait dire il tue d'une balle ou quelque chose comme ça, mais on ne peut pas. Et donc, j'ai traduit il tue la jeune blanche et first qui arrive à la fin, c'est-à-dire en premier. Ils vont tuer les autres après. First arrive comme fire, comme feu. Et j'ai vu, c'était véritablement... J'avais entendu dire que Ku Klux Klan, c'était le bruit que fait une culasse d'armes automatiques quand on la referme. Je crois que c'est pas vrai d'ailleurs, mais c'est...
Comme un claque.
C'est assez joli, oui, clac, clac, clac. Et là, j'ai pensé à ça, donc j'ai traduit « Il tue la jeune fille ». Et c'est la white girl, la jeune blanche, il tue la jeune blanche, et j'ai pas voulu dire en premier, parce que phonétiquement en premier me semblait trop fragile, et j'ai dit d'abord, qui rime avec mort et qui clôt comme un coup de poing ou comme un coup de feu. Cette phrase. Voilà, c'est le type de problème de traduction qu'on peut avoir.
Et que vous...
sur un titre.
Par exemple,
le chant de Salomon, en anglais, Song of Solomon, c'est un passage de la Bible, un livre de la Bible qui est le Cantique des Cantiques. Et dans ce chant de Salomon, il y a un chant et à la fin, il y a une chanson. Il y avait eu une traduction ancienne qui disait la chanson de Salomon. Et moi, j'ai traduit le chant de Salomon parce qu'on ne peut pas traduire le Cantique des Cantiques. C'est absolument impossible en français. Mais le chant a un côté plus emphatique, plus important qu'une simple chanson.
Vous montrez d'ailleurs l'un et l'autre la logique phonétique de la version originale. Et à l'instant, Christina Ferrière, vous parliez de la sensibilité de Toni Morrison à la qualité du rythme et à la sonorité. Elle écrivait dans Beloved, par exemple, au commencement, il n'y avait pas de mots. Au commencement, il y avait le son. Eh bien, en 1980, le Festival d'automne a organisé à l'American Center à Paris une rencontre entre Toni Morrison, qui était docteur honoris causa de l'Université Paris 7 à l'époque, et le musicien de jazz Max Roach, entre deux improvisations à la batterie. Elle a lu des extraits de son roman de jazz. Écoutez un extrait de ce que ça a donné. C'était sur France Culture en 1995.
Sleepless woman could always rise from her bed, wrap a shawl around her shoulders and sit on the steps in the moonlight. And if she felt like it, she could walk on out the yard and on down the road. No lamp and no fear. A hiss crackle from the side of the road would never scare her, because whatever it was that made the sound, there wasn't something creeping up on her. Nothing
Lecture de jazz, donc, par Toni Morrison avec le jazzman Max Roach sur France Culture en 1995. Un grand merci à vous deux, Jean-Guy Loiseau et Christine Laferrière. Je me reporte les auditrices et les auditeurs à vos ouvrages, bien entendu. Un grand merci d'être venu donc nous parler de la langue, cet acte doté de conséquences pour Toni Morrison. C'était donc Avoir raison avec Toni Morrison. Roxane Poulin, Alexandre Fougeron, Caroline Brouet, aujourd'hui à la technique, c'était Jacques Hubert. Demain, nous nous demanderons comment on écrivait avant Toni Morrison et comment on écrit après elle.